J'ai des petits papiers. Aujourd'hui, juste pour vous faire écrire un peu, mais il y a que voilà. Mais j'ai pas mis de trous, choses comme ça avec des notes. Donc, si vous voulez prendre des notes avec de ce qu'on va dire, libre à vous. Mais au moins pour lire en premier lieu les textes. Merci, Jacob. Lire les textes qui vont nous intéresser. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y a six passages, sept passages à lire. Mais bon, quelques versets, c'est pas juste, c'est pas des grands passages, hein. Donc, premier travail. S'il manque des feuilles, il y en a encore sur l'imprimante là-haut. Tu peux prendre pour moi, s'il te plaît? Ouais. Parce qu'il y en a peut-être pas assez. J'en ai tiré quelques-unes là-haut. Ça, c'est juste pour travailler. Donc là, ici, on avait vu quel personnage la semaine dernière? Tichic. On a vu Tichic. Est-ce que vous vous rappelez qui était Tichic? Ah, on va faire une révision là, hein. C'était compagnon de Paul, fidèle, on avait vu ça, hein, fidèle ministre du Seigneur, consolateur, il a consolé Paul, il a été envoyé, donc c'est un homme de, on avait dit de communication, hein. Il a beaucoup été envoyé par Paul, c'est lui qui a apporté les lettres, différentes lettres. Tout le monde a un papier, il en manque? Il y en a encore d'autres là, hein. Ouais. Voilà, donc on avait appelé ça un petit peu, on poursuit un thème qui s'appelle Lumière sur les ouvriers qui sont dans l'ombre, hein. Alors plus ou moins dans l'ombre, parce que mon Tichic, quand même, il y avait pas mal de versets qui parlaient de lui. Mais ici, nous allons voir ce soir Jean surnommé Marc. Alors avant de regarder le papier ici, hein, ne regardez pas le papier, tournez-le, feuille blanche, hop, 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 on regarde pas, hein. Est-ce que quelqu'un sait qui était Jean surnommé Marc? Qui n'a jamais entendu parler de Jean surnommé Marc? Qui ne sait pas qui c'est? D'accord. Vous savez peut-être qui c'est, mais vous savez pas que vous avez lu son nom. Vous avez forcément lu son nom. Si vous avez lu la Bible, vous avez forcément lu son nom. D'accord? Donc Jean surnommé Marc. Alors qui était Jean surnommé Marc? Qu'est-ce que vous savez de lui? Comme ça, avant qu'on regarde le papier. C'est le cousin de Barnabas, très bien. T'as triché, tu l'as lu. Faut pas tricher, hein. Faut pas tricher. C'est pas bien de tricher, hein. Oui, d'autres, qu'est-ce que vous savez d'autre? Il a accompagné Paul, très bien, son premier voyage missionnaire. Il a abandonné en Pamphylie. Vous savez des choses. Après, on va partir. Si vous trouvez tout, on part. Dans 5 minutes, on est parti. Vous allez rentrer tôt, vous allez vous prendre votre souper. Oui, voilà. Paul a plus tard dit qu'il a besoin de lui, hein, qu'il est utile. Voilà. Ok, très bien. Vous avez tout dit. Hein. Non, là, vous allez regarder peut-être comme la dernière fois. Comment on fait quand on étudie? On regarde les passages qui parlent de la personne et puis on relève tout ce qu'on peut relever. Stylo à la main. Donc, vous avez tous les passages qui sont là. Vous regardez. Et vous relevez ce qui est. Il faut toujours votre stylo, hein. Stylo, le petit carnet, ou maintenant grand carnet, vous êtes passé maintenant au grand carnet, je suis sûr. Pour prendre des notes, c'est important, hein. Stylo, et donc on a acte 12-12. Vous regardez, vous les prenez, je vous donne 5 minutes. Et ensuite, on va discuter à partir de ce que vous avez noté. Acte 12, 12, acte 13. Alors, 5, 13, c'est verset 5 et verset 13, hein. Acte 15, là, il faut lire un peu plus. Plusieurs versets, 36 à 39. Ça fait 4 versets. Et Colossiens 4, verset 10. 2 Timothée 4, verset 11. Philémon, verset 24. Et 1 Pierre, chapitre 5, et au verset. Donc, acte 12, verset 12, qu'est-ce qu'on apprend ici? Se réunissait, d'accord. Sur lui, on apprend quoi? Il est dans ce verset 12, se réunissait dans, ça c'était dans sa maison, effectivement, hein. Et il était fils de Marie, d'accord. Ils se réunissaient, comme a dit Bruno, mais combien de personnes se réunissaient? beaucoup de personnes. D'accord. Il y avait donc beaucoup de personnes qui se réunissaient chez lui. Et il faisait quoi? Il priait. Donc probablement lui avait de la réunion de prière chez lui. C'était la maison de sa maman, mais bon, il y était aussi. Très bien. Verset 25. Qu'est-ce qu'on apprend? Il est surnommé Marc, mais c'est tout ce qu'on apprend de lui. Voilà, il dit Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur voyage, sont retournés à Jérusalem, emmenant avec eux. Donc on pourrait dire qu'il accompagnait, il est parti avec eux, il était dans l'équipe. Hein? Donc ça c'est une chose qu'il faut noter ici. Très bien. Acte 13, 5, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, il était une aide pour dans l'équipe. Hein? Est-ce qu'il était apôtre? Non, hein. Est-ce que on sait pas comment il aidait, hein, mais en tout cas, on sait qu'il aidait. Il était une aide dans l'équipe. Et puis ensuite, au verset 13, il n'a pas suivi, il a fait quoi? Il est retourné à Jérusalem. D'accord? Donc, il est parti avec eux. Jusqu'où il est allé? Voilà, il a abandonné en Pamphylie, d'accord. Mais il était où d'abord? Entre le verset 25 et le verset 13 du chapitre 13, et entre le verset 25 du chapitre 12, quand il part avec eux, il va où? Où est-ce que vous voyez ça? Quel verset? Verset 6, ensuite vient après quoi? Salamine vient après quoi? C'est le si vient après quoi? Antioche. Ils sont allés à l'église d'Antioche. Ils étaient à l'église d'Antioche, rappelez-vous. Regardez au verset 13, qu'est-ce qu'il y a dit? Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, etc., etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part, soit les Barnabas, et ensuite, soit les Barnabas partent. Et avec eux, qui c'est qui part? Jean-Marc. C'est là qu'on voit qu'il était une aide pour eux. D'accord? Et c'est après. Donc, quand il quitte Jérusalem, il va à Antioche. À Antioche, ils sont là. Je sais pas combien de temps. Pendant un certain temps. Et après, il part. Ok. Donc, il fait partie de l'équipe. Ensuite, il abandonne, on le voit au verset 13. Au chapitre 15, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'il fait au chapitre 15? Voilà, hein. Il y a une séparation et lui part avec son cousin. D'accord? Une séparation entre Paul et Barnabas et puis Paul part avec Silas. D'accord. Donc là, c'est une séparation. Il fait pas grand chose, mais il est au cœur d'un débat, on va dire, d'un conflit. On va voir ça tout à l'heure. Ensuite, en Colossiens 4, verset 10, qu'est-ce qui se passe? Oui, on apprend qu'il est le cousin de Barnabas, c'est là qu'on l'apprend, mais quoi d'autre? C'est tout ce qu'on apprend ici? Oui, d'accord, Paul demande de l'accueillir, mais il est où là? Il est où, Jean-Marc? Parce que Paul dit quoi? Paul dit... Et qu'est-ce que Paul dit dans la lettre là, ici? Avant qu'il dise ça. Qu'est-ce qu'il dit? Lisez le verset, dites-moi ce qu'il dit. Voilà, il parle de ses compagnons qui sont avec lui, ainsi que Marc. Et qu'est-ce que fait Marc? Il dit, Marc, vous, salut. Donc c'est que Marc est avec Paul. Et Paul est où quand il écrit l'épître aux Colossiens? En prison, où? À Rome. Donc, il est avec Paul à Rome, en prison. D'accord? Donc on le voit... Au chapitre 13 du livre des Actes, on a dit que il est parti avec Barnabas, se sont séparés, et là, il se passe un certain temps, et on le retrouve maintenant où? En prison avec Paul. Et Paul dit même aux Colossiens, s'il passe chez vous, eh bien, accueillez-le. Très bien. En 2 Timothée 4, verset 10, qu'est-ce qu'on lit? Voilà. C'est Paul qui fait quoi? On essaie de résumer en une phrase concernant Marc. Qu'est-ce que fait Paul? Il le recommande. Non, il le recommande pas. Il le Regardez bien. Recommander, c'est « je vous dis d'accepter quelqu'un hein? ». Il ne le recommande pas, il le veut pour qui ? Pour lui. Pour lui, donc il le réclame. Il le réclame, d'accord ? Il ne le recommande pas à quelqu'un, il le demande pour lui. Hein? Il dit « quand tu viens, amène Marc avec toi ». Ok. Et puis en Philémon 24, qu'est-ce qu'on apprend ? Il est le collaborateur, il appelle le compagnon d'œuvre, très bien. On indique le compagnon, c'est celui qui est ouvrier avec. Et puis en 1 Pierre 5, verset 13. Fils de qui ? 1 Pierre, c'est pas Paul. Donc c'est le fils de qui ? Qui c'est qui écrit 1, 5, 13. Vous avez regardé qu'est-ce que dit ? Alors, c'est Pierre qui parle, hein, d'accord. Donc, il appelle Marc comment ? Son fils. Est-ce que Marc, c'est son fils ? D'accord. C'est son fils spirituel. Ça veut dire que c'est lui qui l'a amené au Seigneur ? On ne sait pas. Mais probablement, on va voir plus tard qu'est-ce que ça peut souligner qu'est-ce qu'on pourrait peut-être voir là-dedans comme vérité. Voilà, en tout cas, il est appelé fils spirituel de Pierre. Donc, c'est qu'il a certainement passé du temps avec Pierre. D'accord ? Il a fait des choses avec Pierre. D'accord ? Peut-être qu'il était là dans cette lettre, peut-être qu'il écrit l'épître de... Bon, alors on dit aussi, on n'a pas mis ici, mais à la fin, on retient que c'est lui qui a aussi écrit l'évangile de Marc. D'accord ? Donc c'est quand même quelque chose, hein ? Vous voyez, donc déjà on a un petit tableau dressé de ce jeune homme, on pourrait dire. Et donc, on va essayer de rentrer un tout petit peu plus en détail avec ce qu'on vient de voir. Alors, le premier point que je vous propose de regarder, c'est, vous pouvez noter sur votre papier si vous voulez, c'est la jeunesse de Marc à Jérusalem. Hein. Il est de Jérusalem, on est bien d'accord, puisque on a vu que l'église était dans sa maison. Fils d'une femme nommée Marie, qu'est-ce qu'on sait de son père ? Rien. Si on ne le cite pas, on peut supposer peut-être qu'il était décédé déjà à ce moment-là. C'est possible. Et puis... Comme dans le texte est écrit Marie, mère de Jean, elle est citée en référence à Jean. On peut supposer que le père n'était pas là, que c'est lui qui avait un peu la responsabilité. C'est possible. Hein. C'est pas dit, mais c'est possible. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y avait combien de personnes dans leur maison ? Beaucoup. Et la Bible dit au chapitre 12 que là, on est en temps de persécution. Jacques a été tué, vous rappelez-vous, par l'épée, Hérode. Hérode avait fait mettre qui en prison ? Non. Pierre, dans le chapitre 12, c'était Pierre, d'accord ? Et puis, Pierre a été délivré, rappelez-vous, miraculeusement par un ange. Et puis ensuite, que fait Pierre ? Il est dehors et puis il se rend compte que c'était pas un rêve, c'était un ange. Et après, il réfléchit, il dit, où est-ce que je pourrais bien aller ? Et qu'est-ce qu'il pense à quoi ? Il pense à la maison de Marie où se trouvaient beaucoup de personnes, donc l'église, et quelques versets avant, on dit l'église était en prière, et après on dit, voilà, il y avait des gens qui étaient en prière chez Marie, beaucoup de personnes. Donc qu'est-ce qu'on peut supposer sur la situation économique de Jean ? On est à Jérusalem, aisé, on est à Jérusalem, probablement aisé, parce que on fait remarquer qu'à Jérusalem, avant, à cette époque, il y avait beaucoup de maisons qui étaient collées les unes aux autres, de petites maisons. Et avoir une maison comme cela qui pouvait contenir beaucoup de personnes, donc ça veut dire qu'il y avait de l'espace. On voit quelqu'un qui frappe sur une porte, il faut aller pour ouvrir. Donc il y avait de la place pour accueillir du monde. Et c'était probablement une famille qui avait les moyens. Et il devait pas avoir, certainement, certains commentateurs pensent qu'il devait pas avoir beaucoup de familles de l'Église qui étaient comme cela, compte tenu de la persécution qui existait. Et donc, il n'y a pas plusieurs foyers dans lesquels ils se retrouvaient. Mais à chaque fois qu'on voit que les disciples se retrouvaient, on parle de la maison et c'est de la chambre haute, on suppose que c'était probablement à chaque fois dans le même endroit et dans cette grande maison-là. Peut-être probablement. Qu'a dû connaître Jésus, qu'a connu Pierre, dans laquelle est passé Barnabas, et puis aussi, certainement, l'apôtre Paul quand il s'est trouvé aussi à Jérusalem. Donc, une maison peut-être relativement confortable. Et puis, aussi, une famille qui exerce, comment on peut dire ça, l'hospitalité, qui reçoit chez elle l'Église, les personnes, alors que l'Église vit une grande persécution, il fallait beaucoup de courage pour faire ça, hein. L'Église vit une grande persécution, et cette famille accueille chez elle, une famille hospitalière, qui a ouvert sa maison pour accueillir, bien sûr, les chrétiens, dans un temps où c'était difficile, peut-être, de le faire à cause de la persécution. Donc, on pourrait dire que Marc a grandi, dans une atmosphère, quand même, je parle pas seulement économique, mais spirituelle, où il a vu passer du monde chez lui, hein. Donc, l'Église, des pasteurs, des gens. Donc, c'était, il a été pétri dans ce milieu en relation avec l'Évangile et avec ceux qui annoncent aussi l'Évangile. Ça, c'est à peu près ce qu'on peut dire pour sa jeunesse. Maintenant, on veut s'intéresser à son ministère, hein, ministère de Marc, parce qu'on parle des hommes qui sont dans l'ombre. Ce qu'on lit dans le livre des Actes, chapitre 11, regardez le chapitre 11. On va essayer de tracer un petit peu l'histoire. Chapitre 11, ici, Actes chapitre 11. Et au verset 27, il y a un prophète. Donc, Barnabas et Saul sont à Antioche. Vous vous rappelez, après la persécution de l'église à Jérusalem, Barnabas va chercher Saul, et puis il le ramène, hein. Ça se trouve au verset 25 à peu près. Il dit: Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Donc Saul et Barnabas sont à Antioche, ils restent là pendant une année, et en ce temps-là, la Bible dit au verset 27, il apparaît un prophète qui s'appelle Agabus et qui annonce une famine. Donc, les frères de l'église, frères et sœurs de l'église d'Antioche, décident de faire une collecte, un don pour envoyer aux frères et sœurs de Judée à Jérusalem. Donc, Saul et Barnabas sont chargés d'amener cette collecte. C'est ce qu'on voit au verset 30. Ils firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Donc, c'est eux qui amènent cette collecte à Jérusalem. Une fois qu'ils se sont acquittés de cela, d'accord, donc le verset 12 parle, bien sûr, de ce qu'Hérode a fait, mais on arrive au verset 25 du chapitre 12. Quoi, cela, verset 25 du chapitre 12, voilà. Une fois qu'ils se sont acquittés de cette tâche, de ce qu'ils devaient faire, ils retournent de Jérusalem vers Antioche, et c'est là qu'ils embarquent avec eux Marc. Alors, on ne sait pas si c'est Marc qui a demandé à venir, si c'est lui qui, ayant grandi dans le contexte avec l'Église chez lui, il a vu passer du monde. Eh bien, voilà, il sent cet appel du Seigneur pour aller et accompagner l'équipe qui va bientôt partir en mission. Ou si c'est Barnabas, étant son cousin, il dit à Paul: écoute Paul, j'ai mon petit neveu, là, il est vraiment très intéressé. Ça intéresserait de partir avec nous, est-ce que tu veux pas l'emmener, on peut l'emmener, etc. Ou bien est-ce que c'est Paul qui aussi a vu des qualités dans ce jeune homme et du potentiel, et puis qui a dit: bon, ce serait bien qu'on ait ce jeune homme avec nous, il peut nous aider. On sait pas, le texte ne le dit pas. Le fait est simplement que Marc, il les accompagne, et certainement c'est un honneur pour lui d'accompagner Barnabas et Saul. Parce que bon, c'était personnes qui étaient importantes dans le ministère. On peut dire donc que la maison ouverte de Marc, hein, qui a reçu tant de disciples, a été probablement vraiment un élément déclencheur dans peut-être son appel ou son désir, hein, d'accompagner l'équipe missionnaire. Quelque temps plus tard, à l'église d'Antioche, donc on est au chapitre 13, l'église d'Antioche, la Bible dit qu'il y avait des docteurs, ils étaient tous en train de travailler, ils vaquaient à leur ministère, et le Saint-Esprit parle, et il dit quoi, ici? Regardez au verset 2, le Saint-Esprit dit: « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, c'est une consécration spéciale, particulière du Saint-Esprit qui dit, voilà, Barnabas et Saul, il faut les mettre à part parce que je veux les utiliser pour un ministère spécifique, un ministère particulier. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la Bible dit qu'ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont imposé les mains, ils leur ont imposé les mains, ils les ont laissés partir. Donc, Paul et Barnabas, ils sont envoyés, verset 4, par le Saint-Esprit, ils sont à Séleucie, de là ils s'embarquent pour Chypre, et après à Salamine, ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues, les Juifs, et on apprend qu'ils avaient Jean pour aide, ils avaient Marc pour aide. Donc Marc les a accompagnés lorsqu'ils ont été appelés par le Saint-Esprit pour accomplir le ministère particulier qu'ils devaient accomplir. Alors, tout se passe probablement bien, et puis on ne sait pas pour quelle raison. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 13 et au chapitre 13, verset 13? Eh bien, la Bible dit, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie, Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quelle est la raison de ce revirement? La Bible, franchement, ne le dit pas, clairement. Est-ce que Luc n'a pas voulu le dire, pour ne pas gêner? Etc. Mais on ne le sait pas. Mais on peut, voilà, nous sommes des hommes, on peut essayer d'imaginer des choses. Est-ce qu'il avait le mal du pays? Ça arrive, hein. Parfois, il y a des gens qui partent en mission et puis finalement, leur pays le manque. Ça fait un trou, hein. Ils ont envie de revenir. Est-ce que c'était le cas de ce jeune homme qui, voilà, peut-être n'avait pas bougé de là depuis sa jeunesse? On n'en sait rien. Est-ce qu'il a eu du mal à trouver sa satisfaction dans le mode de vie ici, qui était probablement particulier? Est-ce qu'il a eu peur des dangers qui étaient liés à ce ministère, au ministère à cette mission? Ou est-ce que c'est un changement? Certains pensent peut-être qu'il y a eu un changement qui est apparu dans la direction et dans l'orientation de la mission ici. Si vous faites attention. La Bible parle de depuis le verset 13, hein, ici, à partir du verset 13, il écrit quoi? Il écrit Paul et ses compagnons. Paul et ses compagnons. Mais avant, c'était écrit quoi? Oui. Toujours Barnabas et Saul. Au moins quatre fois. Barnabas et Saul au verset 12, 25. Barnabas et Saul au verset 13, chapitre 2. Encore. Barnabas et Saul au chapitre 13, verset 4. Barnabas et Saul au chapitre 13, verset 7. Et quand le Saint-Esprit parle, il dit, mettez-moi à part qui? Barnabas et Saul. Et puis après, l'Esprit envoie qui au verset 4? Barnabas et Saul. Ça se déroule. Et puis ici, et l'ordre des noms est quand même quelque chose qui est important. Ça donne une idée de la direction des choses. Et mais après, au verset 13, qu'est-ce qu'on voit? Paul et ses compagnons s'étant embarqués ici. Et puis si vous lisez dans la suite, il y a 10 fois, jusqu'au chapitre 15, hein, on est au chapitre 13 là, hein, entre le chapitre 13 et le chapitre 15, il y a 10 fois Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. On est passé de Barnabas et Paul à Paul et Saul à Paul et Barnabas. Donc ça veut dire que pendant un certain temps, Barnabas a probablement dirigé les choses et là, c'est Paul qui prend en main les choses. C'est Paul qui dit, par exemple, quand vous regardez au chapitre 15, il dit, retournons voir les églises, hein. D'accord, donc c'est lui qui prend la décision et puis il le dit à Barnabas ici. Et donc il prend le leadership. Barnabas était le cousin de Marc. Est-ce que ce changement a pu affecter? C'est possible. Hein? C'est possible. Hein? Il y a des gens qui sont sensibles à cela. Hein? Est-ce que aussi certains pensent que Paul, on le voit à partir de ce moment-là, un petit peu plus, quelques versets plus tard, il se dirige vraiment vers les nations. Est-ce que cette orientation pour Marc qui était juif était trop difficile quand on connaît la réaction de l'Église de Jérusalem par rapport au ministère parmi les nations, on peut se poser aussi la question. On ne sait pas, la Bible ne le dit pas, mais il y a certainement quelque chose qui a gêné ou poussé Marc à agir de la sorte. Et ce que l'on peut savoir aussi, c'est que ça n'est pas juste quelque chose de léger, puisque plus tard au chapitre 15, l'apôtre Paul, on va le voir tout à l'heure, il ne veut pas reprendre Marc. Et il lui reproche quoi? Il lui reproche d'avoir abandonné la première fois. Et donc, ça montre que Paul n'était pas d'accord avec la manière avec laquelle il a abandonné la première fois. C'était pas quelque chose qu'il approuvait. Et donc, c'était peut-être pour une raison que Paul trouvait insuffisante ici. Donc, le texte ne dit pas, on va pas aller plus loin, mais on comprend vraiment que Marc a abandonné, voilà. Et que c'était quelque chose qui était difficile, même pour Paul, et peut-être pour une raison qui n'était pas une bonne raison. Troisième chose, alors là on est en train de parler du ministère de Marc, hein. On voit que Marc, un peu plus tard, donc Paul continue avec Barnabas, son ministère, ils font de l'évangélisation, ils reviennent après à Antioche pour faire ce qu'on appelle un compte-rendu missionnaire. Il reste à Antioche, donc chapitre 14, si vous regardez, de 26. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait et comment Dieu avait ouvert aux nations la porte de la foi. Donc là, ils sont dans un compte-rendu missionnaire, ici, intéressant, hein, et ils racontent ce que le Seigneur a fait, ici. Et puis, l'apôtre Paul, en bon dirigeant, il a l'idée de retourner visiter les églises. Acte 15, regardez au verset 36, acte 15, au verset 36, il dit « Quelques jours s'écoulèrent, et puis c'est Barnabas. Maintenant, c'est Paul qui a le leadership. Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé le Seigneur pour voir dans quel état ils sont. Barnabas est d'accord avec cette idée. Et Barnabas est tellement d'accord qu'il dit, ok, mais ce qu'on va faire, on peut même emmener avec nous Marc. Et Paul dit non. Et on peut imaginer la discussion qui s'ensuit. La Bible dit que Barnabas voulait amener Paul. Et le sens, ça veut dire qu'il a insisté pour l'amener. Et Paul a insisté pour refuser ici. Et là, on a l'une des pages les plus, il faut dire dramatiques, hein, mais dans la Bible, il y a une vive discussion entre deux hommes de Dieu. Barnabas et Paul, qui ne sont pas d'accord sur le fait de prendre ou de ne pas prendre avec eux Marc pour le deuxième voyage missionnaire. Paul n'est vraiment pas d'accord. Il se souvient de l'abandon de Marc et il exprime qu'il ne le trouve pas fiable. Il dit « on va pas prendre avec nous celui qui nous a abandonnés et qui n'a pas continué avec nous lors du premier voyage ». Il ne trouve pas Marc fiable. Et on peut supposer que Barnabas dise « oui, mais Paul, on peut lui donner une seconde chance ». Il dit « après tout, c'est un jeune, on peut pas le rejeter ». Comme cela, il a fait une erreur, d'accord, mais après il faut savoir pardonner et puis ensuite l'aider à mûrir et à grandir. Alors peut-être qu'il a même pu lui dire, rappelle-toi, c'est moi qui suis venu te chercher à Tars, l'Église te rejetait, donc il a bien fallu faire quelque chose. Hein, d'accord, rappelez-vous que Barnabas était appelé comment fils d'exhortation, hein. Donc c'est lui qui, parce qu'il a, c'est quelqu'un qui aimait exhorter, aimait accompagner. Il avait un cœur pour encourager. Peut-être ceux que les autres rejetaient, il était avec eux pour les accompagner. Donc notamment, il a dû vouloir insister comme cela pour son cousin. Alors il lui dit, voilà, pourquoi tenir rigueur à ce jeune? Et puis il a, pardon? Peut-être. Hein. Il a certainement changé, pouvait dire Barnabas. Il a peut-être pris en maturité, mais Paul dit non. Paul dit non. Et Paul peut dire, on peut imaginer Paul qui dit, je comprends Barnabas, c'est ton cousin, mais les exigences du ministère sont telles qu'on veut des hommes fiables. On peut pas prendre n'importe qui, quelqu'un qui a montré dans son caractère qu'à la moindre difficulté, il abandonne. Là, on va repartir pour un deuxième voyage. On a besoin vraiment de quelqu'un qui puisse prendre en main les choses, etc. On va pas en voyage de tourisme. On va sur le champ de mission. On va visiter les églises. On affronte de la difficulté. La Bible dit que la discussion est devenue tellement vive. Et le mot qui est utilisé dans le verset 39, il dit, ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent. C'est-à-dire, et le mot, c'est le mot qu'elle a donné en français, le mot paroxysme. Vous connaissez le paroxysme? Quand quelque chose arrive à son paroxysme. Donc c'est l'état le plus haut qu'on éprouve dans un sentiment. Et là, ils ont éprouvé un état extrêmement haut dans un sentiment d'exaspération. Il dit qu'il sort, c'est devenu tel que la seule solution, c'était qu'ils se séparent. Et ils se sont séparés. Verset 40, ce dissentiment fut assez vif qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Barnabas prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Barnabas était de Chypre, hein. Bon, peut-être c'est, quand ça va pas, on retourne rapidement aux sources, hein, pour au pays natal, j'ose dire. Et puis Paul choisit Silas et parti recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Alors, on pourrait dire pauvre de Marc dans cette situation. Il n'a pas choisi, hein. C'est difficile, hein, d'être au cœur d'une discussion, d'être l'objet d'une discussion, hein, de manière passive, parce que lui, il n'intervient pas, il dit rien. Mais il y a le staff au-dessus qui discute et qui se divise à cause de lui et de l'attitude qu'il a eue lors du premier voyage. En tout cas, c'était suffisamment important pour qu'il se sépare. Et la question qui nous brûle les lèvres, c'est laquelle? C'est qui a eu raison? De Paul ou de Barnabas? Qu'est-ce que nous aurions fait si on avait une situation comme celle-là? La Bible ne dit pas qui a raison, hein. Ça n'a sans doute pas d'importance. Après tout, peut-être que ils avaient tous les deux raison dans un sens et peut-être tort dans un sens. Mais quand même, on peut souligner que le verset 40 dit « Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. » Il n'est pas dit la même chose pour Barnabas et pour Marc. Ça ne veut pas dire que... Mais la Bible ne le souligne pas, en tout cas. Et certains commentateurs font remarquer que Paul était apôtre et pas Barnabas. Et que, par ce fait, peut-être, que Barnabas aurait dû se soumettre à cette décision de Paul. Bon, finalement, il est quand même parti sans Marc. Hein. On ne sait pas, la Bible ne dit pas, mais en tout cas, on voit combien un petit quelque chose qui est juste dans le caractère de quelqu'un qui abandonne une mission a été un problème qui a mis une division entre deux serviteurs de Dieu qui ont travaillé beaucoup et qui ont fondé des églises. Alors, quelques petites applications peut-être juste ici. Il faut toujours veiller, je pense, à ne pas rendre la tâche de ceux qui nous dirigent difficile par le choix, nos choix et nos comportements. Peut-être il a pris une décision trop vite, Marc, de rentrer. l'abandonner de manière subite. Il n'a pas probablement suffisamment réfléchi à ce que ça pourrait engendrer plus tard. Parfois, on ne pense pas à ce que ça peut faire plus tard. Qui pense que quelqu'un quitte un champ missionnaire, il rentre, plus tard, ça va causer la division entre deux missionnaires? Bon, personne. D'accord. Mais toujours est-il que cette petite chose a été la cause d'un déchirement. Donc il faut quand même toujours veiller. J'ai vu parfois dans une église, surtout quand il y a des liens familiaux ici. Hein, et c'est ça, c'est peut-être la chose qui rend le problème un peu plus difficile. Hein, peut-être que si Marc n'avait pas été le cousin de Barnabas, les choses seraient passées autrement. On ne sait pas. Mais j'ai vu, quand on était pas ici, mais dans notre église, quelqu'un qui enseignait la classe du dimanche à des adultes. Et puis en parlant avec, bon, il était marié cet homme, et puis en parlant avec, on a été invité par dans sa famille, et puis il vivait quasiment séparé d'avec sa femme. Et donc on a parlé, et puis on a demandé, mais pourquoi est-ce que s'ils ne s'entendent pas, ils ne vivent pas ensemble, il y a des problèmes dans le couple, pourquoi est-ce que lui, il enseigne l'école du dimanche? Et quelqu'un nous a dit, oui, mais c'est le frère du pasteur. Le lien familial. Quand un lien familial vient se mélanger, je connais notre église aussi où parfois dans le conseil d'église, les décisions ne peuvent pas être prises correctement parce qu'il s'agit parfois de discipliner un membre de l'église dont un parent est membre du conseil d'anciens. Et parfois, ça marche pas trop. On n'ose pas prendre la décision. Voyez, quand les liens familiaux se mélangent parfois, c'est toujours un peu plus délicat. Mais ça veut dire qu'il faut prendre les bonnes décisions quand même. Mais ces deux exemples, c'est juste pour vous montrer comment parfois un attachement familial peut rendre la chose plus difficile. Et peut-être que cet attachement familial a rendu la chose un petit peu difficile aussi ici. Voilà, ça c'est concernant donc Marc dans ce conflit. Il est un peu passif, mais n'empêche qu'il est quand même la cause de cela. Mais quand même, l'Écriture ne nous laisse pas sur ce point, il nous parle du progrès de Marc. On voit le progrès de Marc, on va regarder ça rapidement. Donc regardez Colossiens chapitre 4 verset 10. Colossiens chapitre 4 verset 10, ici. Qu'est-ce qu'on lit? On lit que Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres, et s'il va chez vous, accueillez-le. Qu'est-ce que Marc a fait entre le moment où Paul a dit non et à cet instant-là? On ne sait pas. Combien de temps se sont écoulés? Alors, on peut essayer de calculer. Il semble que l'église d'Antioche a été fondée vers l'an 38, à peu près, de notre ère. Ok, on va dire 40, 38. Et la lettre à l'église de Colosse, dans vos bibles, c'est peut-être écrit, hein, la date de rédaction, c'est vers 60, à peu près. Donc il s'est écoulé entre les deux combien d'années? Une vingtaine d'années, quand Paul écrit « Marc vous salue ». Okay. Donc, on ne sait pas combien de temps exactement, mais peut-être on peut dire, hein, entre 15 et 20 ans se sont écoulés entre le moment où Paul avait refusé de prendre Marc et le moment où on revoit Paul avec Marc. Et que s'est-il passé dans ce trou-là? C'est la période d'ombre, on ne sait pas, mais certainement Barnabas a encouragé Paul et certainement Pierre aussi, rappelez-vous. Qu'est-ce que Pierre a dit? Marc, qui est mon fils. Et certainement, Pierre aussi a travaillé avec Marc. Ils ont fait des choses ensemble. Il l'a encouragé. Il dit, oui, je sais, c'était peut-être difficile pour toi, etc., cette situation. Mais il faut que tu l'acceptes comme la volonté du Seigneur. Peut-être tu as des choses à voir dans ton caractère. Peut-être tu as besoin de temps pour, comme la sœur a dit, c'était pas encore le moment, hein, de temps pour être affermi, etc., etc. Certainement, ils ont fait des choses. Et Marc a changé, probablement. Certainement. Parce que on le retrouve avec Paul. Et Paul dit même, à l'église de Colosse, s'il vient vous voir, qu'est-ce qu'il faut faire? Accueillez-le. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il leur demande de l'accueillir? Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous, quand quelqu'un commet une faute, un échec? On a tendance à prendre son échec comme sa carte de visite, hein? Et on le voit à travers le prisme de l'échec, hein? Ça peut arriver, hein? Imaginez l'église qui lui dise: ah, n'est-ce pas la marque? C'est toi qui avais abandonné il y a 20 ans sur le champ missionnaire. J'espère que tu vas mieux maintenant, hein? T'as pris quand même un petit peu plus d'assurance, hein? Ça peut décourager quelqu'un, n'est-ce pas? Ça peut décourager, hein, de revenir à l'échec passé, etc. Mais si il a appris, il a progressé, et qu'il est maintenant utile, et Paul dit, voilà, maintenant, accueillez-le comme il faut. Hein? Et vous avez même reçu, il dit même, vous avez reçu des ordres le concernant. Donc, les apôtres, peut-être aussi Barnabas, Pierre, ils ont déjà tracé le chemin au cas où ils se rendent à l'église de Colosse pour qu'ils soient convenablement accueillis. Et ça, c'est une chose qui est importante. Il faut pas, ça nous donne un peu une idée comment on doit aussi encourager les autres. Philippiens 24 dit qu'il est appelé le compagnon d'œuvre, et puis dans 2 Timothée 4, 11, on voit même que Paul le réclame, il dit « amène-le avec toi car il m'est utile ». Paul avait déclaré qu'il, enfin, il n'avait pas dit avec ces mots, mais qu'il était inutile il y a 20 ans. Il n'a pas pris parce que c'était pas fiable, ce serait pas utile. Et là maintenant il est utile. Dieu a fait une œuvre dans son cœur et il est maintenant devenu quelqu'un d'utile. Je termine avec quelques mots d'application. Il faut ouvrir sa maison à l'évangile, parce qu'un bon témoignage, hein, de l'évangile dans la maison, on ne sait pas ce que ça peut susciter comme vocation. Marc a grandi dans un foyer où sa maison était ouverte pour l'église, des gens passaient, etc. Il a vu, il a entendu, il a reçu, ses parents ont reçu des missionnaires chez eux, peut-être qu'ils ont entendu des histoires, il a fait des... je ne sais pas. Mais ça a aidé, en tout cas, à susciter une vocation. Donc, on ne sait jamais, hein, donc il faut encourager, permettre à nos enfants aussi, quand on a la possibilité, d'avoir des contacts avec des serviteurs de Dieu. Peut-être ça peut susciter aussi des vocations dans leur cœur. Deuxième chose, ne vous laissez pas décourager par vos échecs passés. Ne vous laissez pas décourager par vos échecs passés. Il faut savoir les voir en face, accepter qu'on a commis des fautes, accepter que nous sommes tels que on nous décrit, mais aussi laisser l'Esprit de Dieu travailler en nous pour qu'on puisse progresser. Je crois que Marc a été quelqu'un qui était enseignable ici, hein. Il n'a pas dit non, c'est comme ça que je suis, etc. Il était enseignable. Et on voit qu'il était enseignable, pourquoi? Parce que on le voit avec Paul. Il a pu dire, quand Paul lui demande de venir, il dit, attends, je voulais venir avec toi il y a 20 ans, tu m'as dit non, et puis maintenant t'es en prison, t'es tout seul, tu veux que je vienne? Eh ben non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Il a pas dit ça. Parfois on est un peu comme ça, hein. N'est-ce pas? Oui, oui, on me demande de faire des choses à l'église, etc. Et puis des fois, non, maintenant je suis pas comme ça. Je suis pas un presse-bouton, on m'appelle quand on a besoin de moi, on m'appelle pas quand on a pas besoin. Non, Paul a dit non, je veux pas de Marc. Et plus tard, Paul dit à Marc, viens. Paul dit à Timothée, amène-moi Marc. Et certainement, Marc, il est venu parce qu'on l'a retrouvé déjà dans la prison de Rome la première fois avec Paul. Donc, il était un être enseignable. Il a commis des fautes, il a commis une erreur, d'accord, mais il avait le cœur ouvert pour apprendre et il a pu être de nouveau utilisé par le Seigneur et devenir vraiment utile. Et puis, dernière chose, ne fixez pas définitivement la valeur de quelqu'un par son échec passé ou par son succès passé. Démas, l'apôtre Paul dit, il a fait quoi, Démas? Il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Peut-être qu'il avait bien commencé, Démas, n'est-ce pas? Il avait du succès, mais il a accompagné Paul. Paul le cite aussi comme compagnon. Et puis, à un moment donné, on apprend quoi? Qu'il a abandonné. Marc, lui, au tout début, il abandonne. Mais après, on le voit, l'apôtre Paul dit, il est utile. À la fin, quelques années, quelques dizaines d'années plus tard, il est utile pour le ministère. Et donc, faut pas rester sur le fait qu'on a eu un échec et que ça doit nous poursuivre. On ne doit pas regarder les gens à travers les échecs. On ne doit pas fixer définitivement la valeur de quelqu'un sur un échec ni sur un succès. Hein. Il faut prier pour que l'Esprit de Dieu travaille toujours dans les cœurs. Si les gens réussissent, faut prier que le Seigneur les garde. S'il y a des échecs, faut prier que le Seigneur aide à voir clair et qu'il transforme les cœurs et qu'il rende les uns et les autres utiles pour sa gloire. Donc je termine là, je trouve que l'exemple de Marc est utile pour nous, hein, parce que nous avons des échecs, nous avons des endroits où nous avons mal fait, certainement. Il faut pas s'arrêter à cela, hein. Il faut demander au Seigneur la grâce de croître, de grandir, mais il faut rester enseignable, hein, et il faut accepter ce que nous dit de nous, et il faut demander au Seigneur la grâce de changer les choses qui ne sont pas de lui en nous afin de nous rendre utiles, et puis il faut rester et demeurer enseignable pour que le Seigneur puisse nous utiliser comme il le souhaite. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour cet exemple de cet homme dans ta parole qui a grandi dans un foyer qui était ouvert à l'Évangile, qui a eu le désir de te suivre, de te servir, peut-être a été découragé par une chose ou une autre, ou une mauvaise compréhension à un moment donné, mais dans le cœur duquel tu as travaillé jusqu'à le rendre utile dans ton ministère. Et nous te remercions pour ces exemples que nous avons dans ta parole, qui nous encouragent à marcher fidèlement attaché à toi et à être ouvert et enseignable. Guide chacun d'entre nous et rends-nous vraiment utiles pour la gloire de ton nom. Amen.